Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019, nous allons vous présenter des programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos tels que l'histoire d'aujourd'hui, Modernisie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Avant les élections présidentielles et les élections législatives simultanées, 130 PPLN continuent d'enregistrer le nombre d'électeurs. Le ministre du Commerce dirige la mission commerciale aux États-Unis. Le vice-président Yusuf Kalla a effectué une visite de travail au Cambodge. Le ministre de l'Industrie encourage Gorontalo à dynamiser l'industrie de l'horticulture. Et enfin, le lycée islamique d'État de Pekanbaru lote des performances artistiques indonésiennes et australiennes. Voici le journal complet. Au cours des trois prochains mois, les Indonésiens organiseront des élections présidentielles et législatives pour la période de 2019 à 2024. La Commission électorale générale ou KPU elle-même a fixé la date de scrutin du 8 au 17 avril, avec le scrutin national ayant lieu simultanément dans 34 provinces le 17 avril. Pendant ce temps, les fêtes populaires sont bien sûr organisées par des citoyens indonésiens domiciliés à l'étranger. Il existe au moins 130 comités électoraux d'outre-mer ou PPLN répartis à 129 représentants indonésiens et le Bureau indonésien du commerce et de l'économie à Taipei. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques indonésiennes du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré « Même si KPU avait annoncé que le nombre de listes d'électeurs permanentes ou DPT à l'étranger atteignent plus de 2 millions, PPLN continue à recueillir des données sur les électeurs qui ne sont pas encore enregistrés. Iqbal a ajouté que des choses qui étaient cruciales à l'étranger, à savoir combien le nombre de DPT et combien d'entre eux utilisent les droits de vote deviennent l'attention particulière de PPLN à cette année. Parce que, selon Iqbal, spécifiquement pour la mise en œuvre de l'élection présidentielle de 2019, il est prévu que le pourcentage d'électeurs étrangers augmentera à partir de la mise en place de l'élection présidentielle de 2014, qui ne représente que 40% du total de DPT de plus de 2 millions. Cette année, nous nous attendons à plus de 50%. Nous continuons à mettre à jour. Maintenant, son étape est que nous nous assurons du nombre qui est enregistré dans le dernier DPT utilise autant que possible leur droit de vote. Par ailleurs, Lalu Muhammad Iqbal a ajouté que les électeurs des citoyens indonésiens qui ne sont pas encore inscrits ont le droit de vote en apportant vos documents de passeport ou lettres de voyage comme passeport SPLP. Ils peuvent utiliser leur droit lorsque le vote commence. Il a expliqué que toutefois, les électeurs apportant un passeport et SPLP n'étaient autorisés qu'à voter au cours de la dernière heure en utilisant un bulletin de vote de réserve conformément à la loi électorale. Tandis que dans la loi électorale, il est indiqué que les bulletins de vote de réserve représentent 2% du total de DPT. Le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a dirigé la délégation indonésienne aux États-Unis à la mission afin de discuter d'un certain nombre de sujets liés au commerce qui serait déroulé du 14 au 19 janvier. Cette visite de travail en Amérique est l'une des stratégies pour atteindre les exportations non pétrolières et gaz naturel qui devrait augmenter de 7,5% par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce dans une déclaration écrite reçue par Antara à Washington DC, Amérique, lundi hors l'Indonésie occidentale. Selon Enggartia Stolokita, la visite de travail de la mission commerciale visait également à améliorer les exportations qui doivent être faites le plus tôt possible et maximal au milieu du ralentissement de la croissance économique mondiale. Le vice-président Yusuf Kalla a effectué une visite de travail à Siem Reap, au Cambodge, pour assister au lancement du Conseil culturel asiatique mardi. Au cours de cette visite, le vice-président devait tenir une réunion bilatérale avec le vice-premier ministre cambodgien Bin Chin et le premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Le Conseil de la culture asiatique est créé en tant qu'institution affiliée à la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, ICAP, afin de développer la coopération dans le domaine de la culture entre les pays de la région asiatique. Le Conseil de la culture asiatique encourage le dialogue permanent entre les bénéficiaires et les artistes, ainsi que les intellectuels, pour le réseau d'individus dynamiques et forts et dans le monde entier. Le ministre indonésien de l'industrie, Airlangga Hartarto, encourage Gorontalo à renforcer l'industrie d'horticulture afin de soutenir la politique industrielle en améliorant la valeur ajoutée des matières premières nationales et en augmentant le prix de produits comme le copra. C'est ce qu'a affirmé le ministre Airlangga lors de la visite de travail dans la province de Gorontalo, récemment citée par Antara. Le ministre Airlangga a affirmé que le ministère indonésien de l'industrie continuait de diversifier ses produits horticoles pour répondre aux besoins du marché de l'exportation. En outre, les produits horticoles seront optimisés pour soutenir l'industrie nationale des aliments et des boissons. En 2018, la valeur des exportations de produits horticoles frais et transformés s'est élevée à 2,23 milliards rupiah. Madrasah Aliyah Negeri Ulul Lycée Islamique d'État de Pekanbaru dans la province de Riau devient l'hôte d'une performance artistique dans le cadre du programme d'échange de jeunes entre l'Indonésie et l'Australie, PPIA Langdi. Le responsable de MAN de Pekanbaru, Nurlinda MPD à Pekanbaru, a déclaré que le programme lancé par le ministère indonésien de la Jeunesse et des Sports était très animé. Outre la performance de Rivezert et Culture, Indonésien et Australien, des attractions et des jeux questionnaires ont également été organisés qui ajoutent de la perspicacité et ouvrir les horizons de pensée des étudiants de madrasa. Elle a ajouté que le programme qui dure 4 mois pourrait ouvrir les horizons des étudiants de madrasa, car en raison de la richesse des informations, notamment lié à l'éducation, est nécessité par les étudiants pour améliorer leur qualité. Serritar, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Serritar, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre l'objectif de 10 millions de touristes étrangers. L'Indonésie cible 20 millions de touristes en 2019. Ce chiffre est supérieur de 3 millions aux objectifs de 2017 et 2018. Voyant le potentiel touristique de l'Indonésie, le ministère du Tourisme est sûr que l'objectif peut être atteint. La semaine dernière, le ministère du Tourisme a publié 100 calendriers des événements merveilleux 2019 déterminés par la direction du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. L'objectif est de pouvoir promouvoir les destinations touristiques indonésiennes par le biais d'activités présentant diverses charmes en 2019. Entre autres, des festivals culturels tels que Cap Gomeh à Singkawang, Kalimantan Occidental, les 5 et 6 février, et le festival culturel de Cirebon à Java Occidental, le 28 décembre, ou des activités sportives telles que le marathon de Jakarta en octobre, et le tour de Singkarak à Sumatra Ouest qui aura lieu en novembre 2019. On croit que le calendrier de ces activités suscitera beaucoup d'intérêt pour attirer des touristes étrangers en vacances en Indonésie. espérant qu'ils ne viennent pas seulement pour profiter de la beauté de la nature qui est déjà bien connue dans le monde entier, mais aussi intéressés à regarder divers événements distinctifs et pleins de charme. Le ministère du tourisme cible même 10 millions de touristes étrangers au premier semestre 2019. Est-ce que cet objectif peut être atteint? Le gouvernement indonésien ne peut pas dépendre uniquement de la beauté de la richesse naturelle pour attirer 20 millions de touristes. Les autres avantages possédés par l'Indonésie et favorisés par les touristes étrangers, tels que la convivialité de la population locale, le coût de la vie bon marché, la haute tolérance et le soleil qui brille toute l'année, doivent être davantage optimisés lors de voyages organisés. Il existe d'autres titres d'organisation internationale qui peuvent également être une valeur ajoutée pour vendre le potentiel de l'Indonésie, tel que le rapport de Gallup Global Law and Order. L'Indonésie serait au 9e rang des pays les plus sûrs au monde. L'amélioration ou le renforcement des programmes en cours doit continuer à faire. Par exemple, offrir des incitations aux compagnies aériennes capables d'emmener un groupe de touristes indonésiens pour la destination de 10 nouveaux Bali. La participation de la communauté à la commercialisation de belles destinations touristiques qui n'ont pas été touchées doit également être améliorée, du moins par le biais des médias sociaux, en utilisant un compte de personnages publics qui possèdent de nombreux adeptes. Cela pourrait éventuellement augmenter le nombre de touristes indonésiens. Une conviction forte doit être possédée par l'Indonésie pour atteindre cet objectif. Bien que le premier semestre soit généralement en basse saison, on s'attend à ce que les programmes lancés par le ministère du Tourisme parviennent à attirer de nombreux touristes. La stratégie du ministère du Tourisme au premier semestre à travers le programme Déplacement vers l'avant encouragera toutes les entreprises touristiques indonésiennes à proposer des forfaits touristiques intéressants aux touristes étrangers. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg est Karl Liebknecht, deux personnages socialistes en Allemagne ont été assassinés. Rosa Luxemburg est un révolutionnaire marxiste avec Karl Liebknecht ont dirigé la rébellion de Spartacus à Berlin au début de janvier 1919, mais il a été arrêté, torturé et tué le 15 janvier 1919. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été tués par Freikorps, des forces paramilitaires. Le gouvernement allemand de l'Est a donné son nom à la rue de Berlin, à savoir Rosa Luxemburgstrasse et Rosa Luxemburgplatz. Le 15 janvier 1962, Yos Sudarso est mort. Le commandeur Yosafat Sudarso, ou connu sous le nom de Yos Sudarso, est mort sur KRI Macan Tutul pendant la bataille de la mer Aru. La bataille de la mer Daru est une bataille qui s'est déroulée sur la mer Daru au Moluk le 15 janvier 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas. Cet incident est survenu lorsque deux navires de type destroyer, les avions néerlandais de Neptune et Freli, ont attaqué le navire indonésien de Macan Tutul, de Macan Kumbang et de Harimau appartenant de l'Indonésie qui patrouillait. Le nom de Yos Sudarso était inscrit comme nom du navire de guerre indonésien, à savoir KRI Yos Sudarso. Le nom de roue est le nom d'île, tandis que le 15 janvier est célébré comme le jour de Dharma Samudra. Le 15 janvier 1974, la manifestation étudiante a accueilli l'arrivée du premier ministre japonais Kakuei Tanaka à Jakarta. L'événement désastreux du 15 janvier, abrégé en Malari, est un événement de manifestation étudiante et des troubles sociaux le 15 janvier 1974 à Jakarta. L'incident s'est produit lors de la visite du premier ministre japonais Kakui Tanaka à Jakarta. Les étudiants avaient prévu de l'accueillir en manifestant à la base aérienne de Halim Perdana Kusuma. Parce qu'il était étroitement gardé, un groupe d'étudiants n'a pas réussi à pénétrer dans la base aérienne. Et enfin, ils ont organisé des manifestations toute la journée et provoqué des émeutes, des incendies criminels et de chaos de Jakarta. À la suite de l'incident, le président Suharto a limogé le général Sumitro en tant que commandant de la sécurité et de l'ordre, puis le poste d'assistant personnel du président a été dissous. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Bahagia.
chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée Crépuscule à la frontière de la ville, chantée par Jelita Septiana. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et voici maintenant la rubrique Mon Indonésie, intitulée La contribution de l'Indonésie au monde en 2019. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée La contribution de l'Indonésie au monde en 2019. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que le moment était venu pour l'Indonésie et d'autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec le soutien de tous les membres des Nations Unies, de travailler dur pour contribuer à la paix dans le monde. Cela a été dit dans la déclaration à la presse annuelle de la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie à Jakarta mercredi. Madame Retno Marsudi a déclaré à cette occasion qu'il n'était pas facile à devenir le membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien exécuté, les tâches au Conseil de sécurité des Nations Unies a un grand défi. Lors de son discours devant l'ambassadeur des amis et le chef de l'organisation internationale, il a expliqué que l'Indonésie ferait de son mieux pour assumer la responsabilité en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Indonésie exercera la présidence du Conseil de sécurité en mai 2019 et au milieu 2020. Les questions liées au maintien de la paix, l'éradication du terrorisme, les synergies entre les organisations régionales et Nations Unies et la Palestine seront la priorité de l'Indonésie. Le rôle de la région pour soutenir la paix dans le monde devait être renforcé. La sécurité régionale est l'épine dorsale de la paix mondiale. Selon la ministre, dans ce contexte, l'Indonésie continuera de travailler dur afin de renforcer l'architecture de la région Indo-Pacifique. En 2019, l'Indonésie lancera également plusieurs initiatives, entre autres le dialogue infrastructure Indonésie-Afrique et le dialogue maritime Indo-Pacifique. Le rôle des femmes dans l'humanité et la paix continuera d'être mis en avant. Le rôle sera également encouragé tant que l'Indonésie siégera au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la région, l'Indonésie a l'intention d'organiser une réunion intitulée « Les femmes et la paix » en invitant des femmes diplomates de l'ASEAN. Concernant diverses catastrophes naturelles et leurs impacts sur le développement de la région, l'Indonésie encouragera également le renforcement des mécanismes de l'état d'urgence et après la catastrophe dans la région, entre autres par le renforcement du centre AHA et de l'équipe d'intervention et d'évaluation d'urgence. Madame Retno Marsudi a également déclaré qu'en 2019, l'Indonésie a officiellement présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2020-2022. Les élections auront lieu en 2019. La ministre Retno Marsudi a déclaré qu'en tant que véritable partenaire de la démocratie, du développement et de la justice sociale, l'Indonésie était prête à collaborer avec d'autres pays pour promouvoir et protéger les valeurs des droits de l'homme. Elle espère que cette candidature est soutenue par le peuple indonésien. C'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua.
Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Dalam wangi bunga cita cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Bunga cita cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson intitulée Sakura, chantée par Harvey Malihulu. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel. Une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel en introduisant une destination touristique en province Java de l'Est. Donc, restez toujours avec nous au service mondial de la voix de l'Indonésie, Radio République Indonésie. La ville Gresik qui se trouve en province Java de l'Est n'est pas seulement connue comme ville industrielle. Gresik a une destination touristique assez intéressante avec les autres régions en Indonésie, c'est Sendang Banyu Biru. Sendang Banyu Biru est maintenant devenu une attraction touristique de base à Gresik. Surtout depuis 2013, le gouvernement local a participé au développement, notamment en fournissant des fonds pour embellir et ajouter les installations favorisant la commodité des touristes. Actuellement, le bord du lac a été amélioré avec l'ordre de pierres étagées. La pierre est utile pour aider les touristes à approcher ce lac de 25 mètres de diamètre. En outre, la pierre peut également être utilisée comme un endroit pour s'asseoir. Pendant le week-end, cette attraction touristique est toujours bondée. Comme son nom l'indique, Senandung Banyu Biru a une eau claire de couleur bleue qui devient l'icône principale. Cette eau du lac est bleue en raison de la teneur en soufre. Les populations locales croient que l'existence de Senandung Banyu Biru est déjà connue depuis longtemps, même avant la période coloniale hollandaise. En outre, l'eau du lac est également censée de guérir diverses maladies de la peau. Les installations à Senandung Banyu Biru qui sont disponibles aujourd'hui sont entre autres un parking de véhicules, une mosquée et une salle de bain. En outre, si vous n'apportez pas de nourriture de boisson, ne vous inquiétez pas car pas loin de l'endroit il y a un restaurant semble appartenant des résidents locaux. À l'avenir, d'autres installations seront ajoutées, comme des manèges pour les enfants, des piscines, des belvédères et des lieux culinaires qui serviront à la vente de nourriture et de boissons. Si dans un futur proche vous visiterez la province du Java de l'Est, n'oubliez pas de vous arrêter à Gresik et de visiter Sendang Banyu Biru. Pour se rendre à cet endroit touristique, vous pouvez conduire le véhicule au village Loayu, district Dukun, Gresik, Java de l'Est. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Et merci de votre fidélité avec nous et au revoir!
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était la troisième chanson intitulée Tout l'amour, chantée par Frida. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage et le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa lama? Je répète, berapa lama? Ou en français, combien de temps? Allons-y! Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation dont le titre est Berapa lama? Ou en français, combien de temps? Joko, berapa lama? Kamu akan tinggal di Jogja? Tony. Seminggu. Joko. Oh, hanya sebentar? Tony. Ya. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa lama? Ou combien de temps? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et vous pouvez la répéter après moi. Berapa lama? Berapa lama? Qui signifie combien de temps? Akan? Akan, qui signifie aller. Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Qui signifie combien de temps vas-tu rester à Jogja? Seminggu. Seminggu, qui signifie une semaine. Hanya sebentar. Hanya sebentar, qui signifie juste un moment. Pour poser des questions sur la durée, en général, utilisez le mot question berapa lama? Berapa lama? Qui signifie combien de temps? Par exemple, berapa lama? Kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Qui signifie combien de temps vas-tu rester à Jogja? Vous pouvez également demander spécifiquement en utilisant l'unité de temps. Par exemple, berapa jam? Berapa jam? Qui signifie combien d'heures? Berapa hari? Berapa hari? Qui signifie combien de jours? Berapa minggu? Berapa minggu? Qui signifie combien de semaines? Berapa tahun? Berapa tahun? Qui signifie combien d'années? Les autres exemples? Berapa tahun kamu tinggal di London? Berapa tahun kamu tinggal di London? Qui signifie combien d'années habitez-vous à Londres? Vous pouvez répondre 2 tahun. 2 tahun, qui signifie 2 années. L'autre exemple, berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? Qui signifie combien de semaines vas-tu rester à Jogja? Vous pouvez y répondre seminggu. Seminggu qui signifie une semaine. Si quelqu'un dit sehari, sebulan ou setahun signifie un jour, un mois et une année. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voinews@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un expéditeur sélectionné. L'exercice est décrivez un lieu touristique dans votre pays en mentionnant le nom du pays, le nom du touriste, son emplacement et la météo. Si vous voulez donner plus d'informations, s'il vous plaît. Par exemple, selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Les amis, on se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain!
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. C'était la chanson intitulée Jasmine Blanc dans la nuit, chantée par Ferdi Ferdian. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voenews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour l'édition de ce soir, nous avons vous présenté le groupe musical Papinka. Pour ouvrir notre rencontre, voici leur première chanson intitulée « Je t'aime toujours ». Cette chanson, qui est l'un des meilleurs single hits de ce groupe musical, raconte la tristesse de quelqu'un qui est laissé par son amant. Conformément aux paroles, cette chanson est mélancolique. Papinka est un groupe musique indonésien de Pangkal Pinang. Le nom de Papinka lui-même est l'abréviation de Pangkal Pinang Bangka. Le groupe a été formé en 2010 et était composé de Shefra Yolandi comme chanteur, Rio guitariste, André bassiste et BJ batterie. Le nom de Papinka est devenu célèbre depuis le lancement de leur single intitulé Où est ton cœur en 2011. Bon serviteur, voici donc le groupe musical Papinka avec sa chanson intitulée Je t'aime toujours. Bonne écoute et à demain.
Jika teringat tentang dirimu, berlinang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayangmu padaku. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Sama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa. Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintainya. Sudah cintaku, biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya.
Siapa? Gua nggak peduli mau siapa kayak gitu, bang. Gua nggak tanya soal itu. bersama dirinya karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya karena ku masih mencintainya.
Of Indonesia.
Chérami, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.